Alors, non, j'irai assez volontiers dans votre sens. Alors, évidemment, en déplaçant le terme de création. Parce que, encore une fois, dans la mesure où le capital vital est inné, il n'est pas créé, enfin, il est créé par Dieu, si vous voulez. Il n'est pas créé, dans l'apochagra, par des personnages qui vont créer quelque chose. Celui qui aurait pu être le créateur d'une œuvre, ça aurait été l'antiquaire, s'il avait écrit le savoir qu'il dit détenir. S'il ne s'était pas contenté de sa supériorité philosophique, mais qu'il ne dispense, qu'il ne traduit oralement que brièvement dans le discours qu'il tient auprès de Raphaël. Alors, si on déplace création au sens de création de soi et en l'orientant vers les figures féminines, on pourrait aller dans votre sens, mais en distinguant effectivement les quatre figures. De quoi Fédora est-elle créatrice ? De rien, sinon du maintien de son pouvoir de séduction. Elle est en quelque sorte figée dans son éternité. Sauf que cette éternité, elle est menacée par le travail du temps, hein, comme elle le dit elle-même. Pauline, elle, alors Pauline, c'est celle qui va s'investir totalement dans la passion amoureuse, quitte à en mourir. Ça, c'est tout à fait remarquable. Ça rejoint la problématique du destin féminin. Comment est-ce qu'une femme peut se créer d'elle-même ? Comment elle peut exister dans la société ? Soit elle va se conformer à ce que la société lui dicte, soit elle va transgresser avec tous les différents modes de transgression. Mais Pauline, là aussi, l'ironie de l'effet peau de chagrin, Pauline devient une héritière, elle devient riche. Elle devient riche et du coup, elle devient désirable aux yeux de Raphaël, pervertie par la question d'argent. Lorsqu'il dit « je ne conçois la passion que dans le luxe hein, », il lui faut des draps de soie. Alors qu'il avait un amour absolument là, disponible, tout chaud, près de lui, il ne l'a pas vu. Et il ne l'accepte. Là aussi, il y a une perversité remarquable du roman. Hein. Il n'accepte l'amour de Pauline qu'à partir du moment où elle est riche. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Donc, Pauline se réalise, oui, vous avez raison, mais elle se réalise in fine. Et elle est aidée dans sa réussite par la réussite matérielle, la réussite passionnelle rendue possible par la réussite matérielle. Là, vous êtes bien dans la société libérale, selon Balzac. Alors, autre élément qu'on pourrait faire entrer en ligne de compte dans la perspective que vous avez soulevée, c'est que vous avez trois personnages qui, certes, ont changé d'importance et de biographie fictionnelle depuis l'édition originale, qui sont Rastignac, on en a parlé, mais Bianchon et Émile. Parce que Émile, c'est qui dans la suite de la comédie humaine ? C'est Émile Blondet. Émile Blondet, qui est un des journalistes que vous trouvez dans Illusion perdue. Et Émile Blondet, qui dit une des lois de la comédie humaine. Tout est bilatéral. C'est-à-dire, les opposés vont toujours ensemble. Il n'y a pas le vrai et le faux, les deux marchent ensemble. Donc c'est la loi de l'ambivalence généralisée. Et il dit, Dieu seul est équilatéral. Le signe kabbalistique de la peau de chagrin, du sceau de Salomon. Donc, tout est bilatéral, Dieu seul est équilatéral. Et ça, c'est une parole mise dans la bouche d'Émile, si ma mémoire est bonne. En tout cas, dans la bouche d'un journaliste. D'où, encore une fois, un des paradoxes. Les journalistes sont vilipendés dans l'illusion perdue. Mais ils détiennent quand même, dans leur moment de grande lucidité, un savoir qui est celui de l'auteur balzacien. Donc, vous voyez, là, il y a aussi une création à venir dans l'ordre chronologique de la comédie humaine avec la figure d'Émile. On pourrait multiplier les exemples comme ça. J'aurais tendance à être assez d'accord avec vous. Il n'y a pas de création en tant que telle dans la peau de chagrin, mais métaphoriquement, il y en a, à propos du destin ou du parcours de tel ou tel personnage.